De la première épître de saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16, 17 et suivants. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. Dans le psaume 130, Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. On va voir aujourd'hui dans ce cycle 2 ce qu'est la prière chrétienne. Quand saint Paul, en 1 Thessaloniciens, nous dit de prier sans cesse, nous invite à vivre ce que Dieu veut pour nous, prier sans cesse. On pourrait penser que ce n'est pas évident, que c'est réservé pour une élite de gens mystiques qui ont une union constante avec Dieu, accompagnée d'extase, de grandes motions. Mais non, il n'en est rien, mais il nous faut tendre à cette union permanente. Nous nous rappelons que l'Église nous enseigne au premier numéro de son catéchisme que Dieu nous a librement créés pour nous faire participer à sa vie bienheureuse, par amour. Ça veut dire que Dieu veut nous unir à lui, qu'il veut se faire connaître comme Père, Fils et Saint-Esprit, pour qu'un jour nous le voyons face à face. Dieu veut nous faire participants de sa nature divine. Nous voyons ça dans la deuxième épître de saint Pierre, chapitre 1, verset 4, si je me souviens bien. Deuxième épître de saint Pierre. Dieu veut nous faire participants de sa nature divine. Donc, il n'y a pas d'union à Dieu pour un chrétien sans la prière. Chacun de nous est appelé par le Seigneur à avoir dans sa vie une prière personnelle qui va l'unir avec son Seigneur. Elle peut être de manière très différente, elle peut être de durée différente, mais il n'y a pas de sainteté, de connaissance du Dieu trois fois saint sans passer par la prière. C'est un leurre. C'est un leurre. Parce que la prière est le lieu par excellence de l'union qui transforme, qui amène jusqu'à l'union totale à Dieu, de l'union transformante. Donc c'est important. Et nous voyons que nos contemporains qui cherchent l'absolu, nos contemporains sont attirés par le yoga, sont attirés par les expériences de transe, sont attirés vers les expériences extrêmes. On fait du canyoning, on saute en corde, voilà, la corde est élastique, on fait du parachute. En fait, on veut se dépasser et communier avec le tout. Voilà, il y a cette expérience de l'homme qui cherche à atteindre tout dans le cosmos, de fondre dans les éléments, dans les sports extrêmes, mais aussi dans tout l'attrait orientalisant, il y a cette idée d'épanouissement, d'harmonie qui est recherchée. Il y a cette idée de finalement on veut une expérience spirituelle et il semblerait que la vieille tradition chrétienne un peu vieillotte, elle ne donne que des rites de la morale, mais bon, c'est pas vraiment de la mystique. C'est vu beaucoup comme ça, pour beaucoup c'est vu comme ça. Or, il faut nous rappeler que le christianisme est une école de mystique par excellence. Le christianisme est une école chrétienne de mystique. D'union à Dieu, nous n'avons rien à envier aux orientaux, aux sagesses, et nous avons même mieux. Nous avons même mieux. Jean-Paul II, dans sa lettre pour le troisième millénaire, au seuil du troisième millénaire, rappelait qu'il était important que les chrétiens redécouvrent l'art de la prière. L'art de la prière, à l'école des grands maîtres de la prière. Il citait en particulier Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, les maîtres du Carmel, qui sont les maîtres de la prière. Il y a d'autres formes de maîtres de prière. Mais de se mettre à l'école de l'art de la prière, des maîtres de la prière. et de découvrir que le christianisme est fondamentalement une expérience mystique. Au-delà des formes rituelles, au-delà des préceptes moraux, de la culture, il y a une expérience mystique qui va nous amener à une union à Dieu qui doit être transformante. Chacun de nous doit désirer une vie mystique. Je me rappelle d'un prêtre qui citait à ce moment-là le cardinal Lustiger qui, en gros, disait en substance « La mystique, c'est pour tout le monde ». Ce n'est pas les grandes extases. Nous verrons des fois qu'il faut se méfier des grandes extases, des grands feux qui n'ont pas de lendemain. Mais l'union à Dieu, la mystique, oui, ça c'est pour chacun d'entre nous. Et nous avons à creuser notre prière pour montrer aux gens autour de nous qui ont soif que nous avons la plénitude de bonheur à notre portée, la plénitude du bonheur à notre portée. Cette quête de la prière, nous allons voir, est une quête de l'absolu, d'une quête de l'absolu, et qui dit quelque chose de notre identité. Vous savez ce vieux dicton grec, « Connais-toi toi-même », ben, il se trouve d'abord dans la prière. On va voir que la prière nous permet de nous connaître profondément. Il n'y a pas d'autre lieu vraiment où on peut se connaître. On peut se connaître avec les relations, avec les gens qu'on rencontre dans sa famille, on peut se connaître dans ses actions. Mais la prière est le lieu vraiment où nous recevons notre identité. La prière, nous allons voir, c'est un chemin de joie, de purification, d'harmonisation. C'est un appel à la sainteté. La prière, c'est, je disais, une soif d'absolu. Je vais dire aussi que c'est un don. Et je parlerai aussi de l'action du baptisé dans la prière. L'action du baptisé dans la prière, et particulièrement après de la prière personnelle et de la prière communautaire. Les deux étant liés et en même temps distincts. Alors tout d'abord, la prière, une soif d'absolu. Dans le psaume, il est dit « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. » Nous entendons parfois ce psaume trop rapidement dans la prière de l'office. Rappelons-nous que c'est à quelqu'un qui cherche Dieu par-dessus tout. « Dieu, tu es mon Dieu. » Je te cherche dès l'aube, depuis le début. Mon âme a soif de toi. Il me manque quelque chose. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Et je ne trouve pas cette eau dans les autres choses. Elle reste aride. On va à la prière avec un grand désir. Si on n'a pas de désir, ben franchement, je ne vois pas comment on va pouvoir grandir dans la prière. Parce que le Seigneur nous dit « Demandez, vous recevrez ». Donc, on va à la prière avec un grand désir. Plus notre désir sera grand, plus Dieu va le combler. La prière de cette soif d'absolu, c'est sentir un manque, un besoin, que seul Dieu peut combler. Et notre besoin, nous verrons, n'est jamais rassasié, mais sans cesse il grandit, parce que Dieu creuse en nous le désir. Saint Augustin disait « Dieu a soif ». Que nous ayons soif de lui. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Et nous entendons le Christ à la croix dire « J'ai soif ». Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Cette parole « J'ai soif », Mère Teresa la mettra au-dessus de l'adoration pour ses filles. J'ai soif, il a soif. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Il est le premier, nous dit l'Église, à nous chercher et c'est lui qui demande à boire. Jésus a soif, sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. La prière, que nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 4. Vraiment, le Seigneur a soif et il connaît notre soif et il peut nous désaltérer. Il faut avoir un grand désir pour y aller. Donc ne pas limiter son désir. On peut aller à la prière en mode habituel, « Bon, j'ai fait ma prière, mais où j'en suis dans mon désir ?» On limite son désir. Non, il faut y aller au maximum, au maximum. Jésus dira à Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. » À nouveau en Jean 4, le Seigneur dira à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu. » Si tu savais ce que je peux donner, tu m'aurais demandé beaucoup. Se faire capacité, ne pas limiter son désir. Cette expérience de la prière qui ne limite pas son désir, mais qui s'y donne à fond, nous fait découvrir que l'être humain a soif de l'infini. La prière est un peu comme un désert vaste, immense, où nous allons faire l'expérience comme les premiers pères dans la foi du monothéisme. C'est pour ça que la tradition des pères de l'Église parle du saint désert, du lieu où nous nous retirons pour être seuls avec Dieu, pour être avec celui qui est le tout, et nous découvrir que nous sommes le rien et que Dieu va donner infiniment. Et donc, il faut demander beaucoup, creuser en nous cette soif. Il faut rechercher l'eau. Dieu, toutes les métaphores que nous avons dans l'Écriture sur l'eau, « je suis l'eau vive », c'est une métaphore de la prière. Dieu va se déverser dans notre cœur. Nous avons « mon Dieu, mon âme a soif de toi, après toi, languit ma chair, terre aride, altérée sans eau ». Dieu peut donner cette eau qui rassasie. Il faut avoir soif. Il faut aussi avoir confiance en Dieu. Thérèse d'Avila dit que l'on a confiance, qu'il faut avoir confiance dans la prière comme nous rencontrons un Dieu qui nous aime. Nous allons dans la prière en sachant que Dieu nous aime, que Dieu veut notre bonheur. On ne va pas à la prière en disant « ça ne va peut-être pas marcher ». On ne sait pas, hein. Non, on va à la prière en pensant que Dieu nous aime. Nous allons voir, c'est un acte de foi. Dieu veut notre bonheur et Dieu veut donner. On ne va pas dans la prière en se disant « il ne va rien se passer, je vais ressortir pauvre ». Non, Dieu va donner. Que nous ne le sentions pas, Dieu va donner. Et nous devons avoir confiance en ça. Thérèse d'Avila définit la prière ainsi « à mon avis, la prière n'est pas autre chose qu'un dialogue avec un ami qu'on aime retrouver seul à seul pour lui parler avec lui, parce qu'il nous aime, pour parler avec lui parce qu'il nous aime. » Donc il y a un temps d'amour. La prière, c'est de l'amour, de la confiance que Dieu nous aime, que Dieu nous donne. Nous sommes là par amour. C'est profondément ça. C'est un acte d'amour. Et c'est important parce que dans la prière, il ne s'agit pas de cogiter, d'avoir des grandes théories. Il ne faut pas beaucoup penser, mais il faut beaucoup aimer. On raconte cette histoire d'une personne pauvre dont un homme religieux venait la voir et lui disait « comment vous priez ?» Et il lui apprenait des prières. Et la personne disait « oh, je prie très mal, j'arrive même pas à dire mon Notre Père. » « Ah bon ? Oui, quand je dis « Notre Père », je n'arrive pas à continuer. C'est tellement beau. » C'est extraordinaire. Cette femme était saisie par le fait de la paternité de Dieu et Dieu lui faisait goûter cela. Voilà. Et donc, la prière, c'est vraiment beaucoup aimer, plus que beaucoup cogiter. Thérèse de Lisieux, on raconte que ses sœurs au Carmel l'ont observée et dans une est allée la voir dans sa cellule et a été la surprise, très joyeuse, assise. Et elle a dit « Ma sœur, qu'est-ce que vous faites ? Oh, je prie. Qu'est-ce que vous dites ? Juste, je pense que tu es mon Père. » Voilà. La prière, c'est beaucoup aimer. C'est beaucoup aimer. Et Thérèse va nous montrer que la prière, et tous les saints vont nous montrer que la prière, cette eau que nous pouvons recevoir, où Dieu se donne, où Dieu nous aime, se donne dans le silence. Le grand moment important pour la prière, c'est de découvrir qu'il nous faut accueillir le silence. Dieu se révèle dans le désert, dans l'Écriture, l'expérience du tout autre, dans le silence de l'immensité. Il révèle à Israël ses commandements et il commence en disant « écoute, en gros, fais silence en toi ». Et le Christ, dans la transfiguration, qui est le mystère lumineux de la prière par excellence, le Père dit à ce moment-là, « Celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » En gros, faites silence. La première chose, c'est donc d'écouter. Le silence est le tout de la prière. Et Dieu nous parle dans un souffle de silence. Il nous atteint dans cette part de solitude intérieure qu'aucun être humain ne peut combler. Je répète, le silence est le tout de la prière et Dieu nous parle dans un souffle de silence. Il nous atteint dans cette part de solitude intérieure qu'aucun être humain ne peut combler. Cette parole, c'est le frère Roger de Thésée. Un philosophe existentialiste, contemporain d'Hegel, Soren Kierkegaard, disait « Prier, ce n'est pas s'écouter parler. Prier, c'est se taire. C'est attendre dans le silence jusqu'à ce que l'on entende Dieu. » Et vous savez, cette petite exemple comique pour représenter la prière, on prend l'exemple de quelqu'un qui était très dévot, qui tous les jours faisait ses prières. Alors, il s'installe et il commence « nananananana, nananana » puis à répétition. Puis un jour, il s'installe, il fait toujours pareil, et puis il entend « Oui, je suis là. » Alors la personne est étonnée, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Alors elle reprend son refrain de litanie, puis elle entend à nouveau « Oui, je suis là, c'est Dieu, tu m'as demandé. » La personne est un peu troublée parce que c'est pas habituel. « Ah non, non, mais j'ai rien demandé, je prie. J'ai rien demandé, je te parle pas, je prie. » Voilà, elle n'a pas découvert que Dieu parle dans la prière, qu'on s'adresse à lui et qu'il peut parler, que c'est pas que des litanies. Donc c'est important de ne pas s'écouter parler, mais de se taire pour entrer dans le silence, pour entendre Dieu. C'est la chose essentielle, c'est ce qu'avait rappelé Jean-Paul II quand il était venu à Paris voir les jeunes. Il lui avait posé la question « Qu'est-ce que vous faites dans la prière ?» Il lui avait répondu en partie « J'écoute. J'écoute. » Et on peut voir que cet homme de foi a eu cette grâce d'écoute, puisque quand, à chaque fois qu'il se déplaçait, que les vidéos se faisaient sur lui, on voyait un homme pétri par la prière, un charisme de prière très fort. Il écoutait Dieu. Il écoutait Dieu. Voilà. Trouver un endroit où ne pas être dérangé. C'est peut-être une première attitude à avoir dans la prière. Où sont mes lieux de solitude et de silence? Où sont mes lieux vraiment où j'écoute Dieu? Où je donne un temps gratuit pour ça? Et dans la prière, il y en a qui... On peut être comme des mitraillettes. On y va et on balance tout ce qu'on a à dire. « Alors Seigneur, j'ai ça à te dire, j'ai ça à te dire, j'ai ça à te dire, puis j'ai besoin de ça, j'ai ça, c'est ça. » C'est bien. On peut le faire au début, on peut le faire à la fin. Mais est-ce que le gros temps de la prière, ça consiste à écouter? Et peut-être que pour le début, le gros temps de la prière va consister à se taire, à faire silence dans ses idées, à faire silence dans ses pensées, à être simplement un silence physique, mental, avant de rentrer dans un silence plus profond qui vient du cœur. Mais c'est déjà un début. Goûter à cette présence du silence et se dire « Seigneur, tu es là, je ne sais pas toujours t'entendre, mais tu es là. » C'est déjà un bon début. C'est peut-être beaucoup mieux que de dire plein de choses. Trouver un temps. Et peut-être pour cela, avant de commencer la prière, parce que des fois on a mille choses à faire, avoir un sas. S'il y a besoin d'un défouloir, un moment d'évacuer, eh bien, on fait 5 minutes, on chante, on va faire un tour, et après on se met en présence de Dieu. On se met en présence d'un Dieu. Ça veut dire que, vous voyez, nous ne rentrons pas en présence de Dieu en un instant. Dans les exercices de Saint Ignace, on nous dit que pour aller à la prière, il faut se préparer. On pense même le moment où on va arriver à la chapelle. De la même manière, Moïse, qui rencontre le Très-Haut, commence par ôter ses sandales. C'est-à-dire qu'on se prépare le cœur. On a un sas. Et puis on dit, maintenant, c'est le moment de la rencontre. Mère Teresa disait, le fruit du silence est la prière. La vraie prière, elle commence dans le silence. Le départ de la prière, c'est de faire silence, mais la vraie prière commence dans le silence. Et elle rajoute, le fruit de la prière est l'amour. Nous allons goûter l'amour dans la prière. Dans la prière, il faut accepter, et nous allons voir, de ne pas maîtriser sa prière. Autant il faut la préparer. Vous pouvez venir, et c'est bon, ne jouez pas au mystique, c'est-à-dire de venir sans rien, ça va bien se passer. Non, non, venez avec un livre, la parole de Dieu par excellence. Venez avec le catéchisme, on peut prier avec les données de la foi, nous allons le voir. Celui qui vient sans rien est présomptueux, parce que bien sûr nous pouvons faire des actes de foi, mais généralement nous avons besoin de grandir dans la prière et commencer par exercer tout ce que nous sommes. Venir avec un livre, c'est bon. Préparer sa prière en amont. Et accepter que la prière ne se déroule pas comme nous l'avons prévu, parce que c'est une rencontre et que Dieu va y faire son interruption, et ça peut changer tout ce que nous avons prévu. Un prêtre raconte, le père Joël Guibert raconte, dans un de ses livres, qu'un jour, au séminaire, il a compris quelque chose sur la prière. Le prédicateur lui a dit « Le premier acteur de la prière, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas vous. » Donc, c'est possible qu'il y ait de l'imprévisible, je rajoute. Et il faut accepter cela. Donc, on ne juge jamais sa prière. Qu'elle soit bonne ou pas bonne, on ne juge jamais. Ce qui revient de nous, c'est de préparer les bonnes conditions de préparation, d'être fidèle à la durée, que ça aille ou que ça aille pas, d'être fidèle à la durée engagée dans le lieu, et de laisser parler le Seigneur. Nous pouvons parler au début ou à la fin, mais de se mettre en présence de Dieu et de laisser parler le Seigneur. La prière est profondément un don. Et c'est là que nous rentrons dans l'humilité, c'est que c'est un don. L'Église nous dit que l'humilité est la disposition pour recevoir gratuitement le don de la prière. L'Église, dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2559, dit « L'humilité est le fondement de la prière. » Vous voyez, on ne peut pas avoir de présomption parce que nous allons à Dieu comme un mendiant. Saint Augustin dit « L'homme est un mendiant de Dieu. » Et dans Romains 8, Paul dit « Nous ne savons que demander pour prier comme il faut. » En fait, Dieu va nous apprendre à prier et il va nous apprendre de manière unique à prier. Il veut personnaliser notre prière. Donc nous préparons avec toute notre bonne attention et notre bonne disposition. Mais Dieu va faire le travail. C'est lui qui fait le gros du travail. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi se juger? C'est Dieu qui fait. Il est là. Je suis présent à lui. Et je lui demande son aide. Et je lui donne la possibilité de le faire par le silence. Et nous allons voir l'écoute confiante et aimante de la parole de Dieu. On ne prie pas donc avec sa tête. On demande avec son cœur, profondément parce que nous prions avec le cœur. Vous voyez, quelqu'un a dit un jour, la plus grande distance dans l'univers, c'est la distance entre la tête et le cœur. C'est la plus grande. Parce qu'on peut aller partout, connaître tout, mais descendre au cœur, ça prend du temps. Or, l'Écriture nous enseigne que c'est avec le cœur que l'homme prie. Maximilien Kolb disait « Dieu veut ton cœur ». Dieu veut ton cœur. L'Église nous dit que le cœur est notre centre caché, insaisissable par notre raison et par autrui. Seul l'Esprit de Dieu peut le sonder et le connaître. Il est le lieu de la décision, au plus profond de nos tendances psychiques. Il est le lieu de vérité, là où nous choisissons la vie et la mort. Il est le lieu de la rencontre, puisqu'à l'image de Dieu, nous vivons en relation. Il est le lieu de l'alliance. Catéchisme de l'Église catholique, 2563. Et l'Église ajoute, si le cœur est loin de Dieu, la prière est vaine. Si le cœur est loin de Dieu, la prière est vaine. 2562. Et nous voyons cela dans toute forme de prière. Nous pouvons, dans notre journée, dans les temps de prière personnelle ou communautaire, si le cœur est loin de Dieu, la prière est vaine. Il ne faut pas se juger. Le Seigneur ne nous invite pas à nous juger, à avoir confiance en lui, à ne pas nous occulter au point de dire « Est-ce que là, vraiment, j'y ai mis mon cœur ?» Mais de nous rappeler que ce qui est le plus important, c'est l'amour. C'est beaucoup aimer. Donc, c'est donner son cœur, avec toutes ses tripes. La prière, je disais, nous permet d'être profondément ce que nous sommes. C'est ça, être chrétien. Alors nous pouvons d'abord dire cela. Le maître intérieur de la prière, c'est le Saint-Esprit. Nous l'avons reçu dans le baptême. Et rappelons-nous ce que dit Paul au 1 Corinthiens 12, 3. Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » que sous l'action de l'Esprit-Saint. Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » que sous l'action de l'Esprit-Saint. De la même manière, c'est l'Esprit-Saint qui dit en nous « Abba Père », qui nous fait connaître la bonté de Dieu. Donc, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est comme le maître intérieur. Voilà ce que dit l'Église dans son catéchisme. L'Esprit-Saint, dont l'onction imprègne tout notre être, est le maître intérieur de la prière chrétienne. Il est l'artisan de la tradition vivante de la prière. Certes, Il y a autant de cheminement dans la prière que de priant, mais c'est le même Esprit qui agit en tous et avec tous. C'est dans le communion de l'Esprit-Saint que la prière chrétienne est prière dans l'Église. Plus nous creusons notre prière, plus en fait nous sommes communautaires. Nous sommes chrétiens, catholiques. Parce que c'est le même Esprit qui nous personnalise, qui va en même temps nous unir. Voyez. Et ça, c'est vraiment quelque chose de profond. Donc, quand nous demandons au départ à Dieu à guider notre prière, il est bon d'invoquer le Saint-Esprit. D'invoquer le Saint-Esprit. Voilà, de prendre un temps pour dire « Maître intérieur, toi que j'ai reçu à mon baptême, toi qui vraiment nous guide, nous enseigne comment prier, à travers la parole, la pensée, le silence, guide-moi, guide-moi. » Vous voyez, ce serait de la présomption de penser qu'on va arriver à force d'une technique à Dieu. Non, la prière est un don qui se demande. Voyez. Et là, on voit, il y a un leurre dans les formes de prière, j'allais dire, occidental d'un autre type, où nous pensons qu'à forme de yoga, à force de yoga ou de technique, on va arriver à un bien-être supérieur de la prière. Oui, nous pouvons nous y préparer. Oui, nous pouvons conditionner, quelque part, dompter notre corps, notre intelligence, avoir des sas. Mais profondément, la prière est un don spirituel qui vient du Très-Haut par le Saint-Esprit. Ce qui est un petit peu différent que simplement une technique. Parce que la technique fait le mieux-être. Elle ne fait pas le contact avec le Très-Haut. Thérèse d'Avila, qui voulait ce contact avec le Très-Haut, a eu dans sa vie une tentation. Une tentation, elle, qui va devenir, comme le dira Paul VI, la mère de la spiritualité. La mère de la prière, le docteur de la prière. Elle a eu une tentation, c'est de penser qu'on pouvait aller à Dieu directement. Donc elle priait, elle s'est dit, on va directement à la Trinité, le mystère de la vie de Jésus, c'est pour les petits, on va directement à la Trinité, on y va comme ça. Et en fait, elle a beaucoup regretté ça plus tard, parce qu'elle s'est rendue compte que ça marchait pas si bien. En fait, elle a découvert la contemplation de l'humanité de Jésus, ce qu'elle appelle le bon Jésus. Toute la vie chrétienne, le Christ le dit dans Jean 10, « Je suis la porte, je suis la porte. Qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Demeurez en moi comme moi en vous. » Qu'est-ce que le Seigneur dit là? La prière chrétienne, c'est véritablement une contemplation de Jésus. De méditer la vie de Jésus, de méditer sa sainteté, ses paroles, ses faits et gestes, qu'il a fait pour moi personnellement. Galates 2:20, ma vie dans la condition terrestre, je la vis avec le Christ qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Qui s'est livré pour moi. Voilà. Donc, là, si nous voulons la grande union, il faut passer par regarder Jésus, par écouter Jésus. En fait, il faut, comme faire avec Marthe et Marie, passer du temps comme Marie à regarder Jésus, à écouter Jésus. Voilà. Donc, si nous perdons dans des considérations, où nous pouvons nous dire où est Jésus en ce moment? Où est-il avec moi? Et nous rentrons en ce moment-là dans la plus grande intimité. Et c'est lui qui va nous faire rentrer dans la Trinité, parce qu'il est la porte. Nous n'allons pas dans le mystère de Dieu comme ça, tout seul. Non, il nous faut demander le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous éclaire sur un point de la vie du Christ. Donc nous voyons que même des fois les prières les plus humbles peuvent être les prières les plus hautes en union à Dieu. Par exemple, je pense au chapelet, qui est la contemplation des mystères de la vie du Christ, qui, bien vécu dans la prière, et l'humilité et la confiance peut amener à une grande contemplation. Je disais que la prière nous révèle notre identité, donc voilà, c'est l'Esprit Saint qui nous est donné. Nous découvrons la vie de Jésus et nous nous tournons vers le Père. J'ai été beaucoup frappé, par exemple, que François d'Assise, qui priait toujours vers le Christ, se tournait vers le Père, ne s'arrêtait pas au Christ. Il passait par le Christ, il est la porte. Mais se tourner vers le Père, voyez, à un moment donné dans la prière, il faut pouvoir dire « Père ». Et il faut pouvoir le dire avec l'empathie, les sentiments, les désirs de Jésus. Il faut que la prière chrétienne soit habitée par Jésus. Il faut que les paroles de Jésus deviennent mes paroles, que mes petites paroles s'intègrent dans la grande parole. À ce moment-là, il y a une personnalisation en nous de Jésus. Jésus y imprime ses traits, ses sentiments, ses faits et gestes. Nous devenons autre Christ. C'est cela le chrétien. Et nous voyons là que profondément, nous trouvons notre identité. Le connais-toi toi-même, nous découvrons que dans la prière, nous sommes fils et filles. C'est notre plus grande dignité. et que Dieu ne diminue pas les traits, mais va les amplifier. Les T-R-A-I-T-S, les traits de son Fils qu'il a mis au baptême, il va les amplifier en nous. C'est notre identité profonde. Et nous exerçons notre identité, comme c'est du surnaturel, avec le domaine surnaturel. Nous exerçons, comme Dieu est Dieu, nous prions avec l'outil surnaturel que nous avons. Ah ouais, c'est quoi? C'est la foi, l'espérance et la charité. Il est bon de commencer la prière en invoquant le Saint-Esprit, en faisant silence et en posant donc un acte de foi qui consiste à dire « Seigneur, tu es là ». Se rendre présent à la présence. Se rendre présent à la présence de Dieu. Tu es là. Et si c'est nécessaire, réciter son credo, c'est-à-dire « Tu es là et tu es qui ?» Tu es Père, Fils et Saint-Esprit, tu as envoyé ton Fils unique pour me sauver et tu m'aimes. Combien de prières sont rabougries parce qu'elles ne sont pas dilatées par le mystère de Dieu? Il est le ressuscité, il a donné sa vie pour moi. On a l'impression parfois, et moi le premier, qu'on prie une prière rabougrie. Mais ce n'est plus une prière dans le donné de la foi. Nous sommes chrétiens, la prière dans la foi. Qu'est-ce que nous enseigne la foi? Comment prier? Vous voyez, ça c'est important. Et cette foi va s'exercer sur la parole de Dieu. Recevoir dans la foi la parole de Dieu. Avant même de tout comprendre, accueillir dans la foi, Dieu parle. La ressusciter dans un acte de foi en pensant profondément que Dieu veut notre bien. Et que comme il est mystérieux, il parle, mais il faut du temps pour comprendre. Accueillons à la foi. Vous voyez? Donc après un grand silence, ce qui est important dans la parole, dans la prière, c'est un temps d'écoute. Un long temps d'écoute qui va s'appuyer sur la parole de Dieu. Et si Dieu nous donne la grâce, nous serons suspendus à sa parole et sa parole sera gravée en nous. Et nous prierons avec ça. Le psaume, de manière particulière, sont les lieux où Israël et les chrétiens ont fait l'expérience de la prière. Ils sont un livre de prière. Les psaumes, hein, les 150 psaumes, nous y trouvons l'adoration, l'intercession, la louange, la gratitude, la demande, etc. Donc ça nous enseigne comment prier. Nous avons prié là au début, psaume 130, « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier et le regard ambitieux, non, je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Espère Israël, maintenant et à jamais. » Psaume 130, le plus court des psaumes. Voilà. Et donc cette foi, rappelons-nous que nous sommes faits pour adorer Dieu. Nous sommes faits pour adorer. Et donc, dans la prière, quelle est ma place d'adoration, au sens fort du terme, d'adorer les vertus de Dieu? Vous voyez, souvent dans la prière, on demande des choses. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Et puis d'un moment, Seigneur, ça va pas bien. Seigneur, je suis comme ça. Finalement, c'est la prière rabougrie qui saute au centre. Or en fait, pour se décentrer, il faut adorer, comme Moïse. Comment on adore? En proclamant dans son cœur la beauté de Dieu, ses qualités. Tu es le Tout-Puissant, tu es Père, Fils et Saint-Esprit, tu es Créateur, tu as donné ta vie pour moi, tu es toujours là, etc., etc. Donc nous voyons que nous pouvons nous appuyer sur la parole dans la foi, où nous pouvons citer notre credo ou prendre même un point du catéchisme comme un support, non pas pour tout comprendre, mais pour adorer Dieu. C'est un vrai acte d'adoration. Moïse rentre en contact avec Dieu par un acte d'adoration en enlevant ses sandales et en se prosternant. Et la finalité de la prière, ce sera aussi l'adoration à Dieu. Dieu est là, je me rends présent, je fais silence, je l'écoute, je l'adore, je lui parle. Et je lui rends grâce et je l'adore à lui. Donc ça, c'est vraiment une attitude de foi. Je rajoute cela dans le carême, qui sera un vrai chemin pour nous de prière. L'antienne du carême dans l'Église, c'est fixer son regard sur Jésus. Voilà, il y a cette idée de « je fixe mon regard, je ne me détourne pas de l'humanité de Jésus et en Jésus, je découvre le Père, le Fils, le Saint-Esprit et j'apprends à adorer Dieu. » Oui. Jésus est le grand adorateur. Vous pouvez contempler ses faits et gestes, comment il prie dans l'Écriture pour nous aider à prier. Oui. Je parlais de la foi, dispositif surnaturel, je parle aussi de l'espérance. Le père Marie-Eugène, un grand priant, un grand carme du XXe siècle passé, disait que la vertu qui fait marcher, c'est l'espérance qui nous permet sans cesse de nous relever. En effet, là, vous verrez que, et vous l'avez déjà peut-être vu pour beaucoup, la prière est un combat. Les pères de l'Église disent que le plus grand combat, c'est la prière. Parce que c'est difficile d'être fidèle, parce que des fois c'est dur, parce que des fois on n'entend rien, parce qu'il y a plein de tentations, parce qu'il y a du découragement, etc., etc. Or, si nous gagnons ce combat avec la grâce de Dieu, nous gagnons tous les combats. Bien souvent, tous les péchés viennent par conséquence que nous avons perdu la prière. Un prêtre un jour a dit « Si Dieu ne te tient pas, tu ne tiendras pas. » Nous tenons parce que Dieu nous tient dans la prière, alors nous pouvons tenir dans le reste. Et donc l'espérance, c'est vraiment de ne pas se décourager dans la prière, de persévérer. Saint Luc, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez le salut. Donc de persévérer dans la prière et de croire que même dans la sécheresse, Dieu va donner. De croire que Dieu va toujours donner et de viser le but, l'union à Dieu. Et notre vertu d'espérance, elle grandit même dans la pauvreté. Il y en a qui vont se dépouiller dans la prière. Au départ, ils y vont avec toutes leurs idées, puis ça se décante, ils disent « mes idées, c'était mes idées, c'est pas l'idée de Dieu, finalement c'est pas terrible, mais j'en ai pas d'autres, tiens, il n'y a plus rien, oh là là, c'est le vide. » Et nous espérons que Dieu va donner. Et ces sécheresses peuvent être purificatrices et faire grandir dans le vrai don de Dieu, et non plus finalement de l'avoir comblé par notre blabla. Et nous grandissons ainsi. Nous sommes tendus vers, car Dieu pourvoit. Et c'est tellement vrai que vous voyez une grande priante, Thérèse de Lisieux, qui n'a pas eu des extases, mais qui a eu une vie mystique très grande, puisqu'à la fin de sa vie, elle dira qu'elle avait atteint le sommet de l'union à Dieu. Thérèse de Lisieux, elle dormait dans la prière, dans l'oraison des carmélites, 2 heures. Elle dormait, elle avait des problèmes de sommeil, c'était trop dur. On pourrait dire qu'elle faisait de la dodoration. Mais elle ne se décourageait pas, elle avait l'espérance. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle comparait sa prière et sa relation à Dieu avec un chirurgien qui fait ses plus grandes opérations quand il endort le patient. Vous voyez, ça ne revient pas de moi, ça vient de Dieu. Je suis fidèle et Dieu fera le travail. Et bien souvent, nous verrons que dans la prière, ce contact invisible, insensible avec Dieu agit sur le moment ou sur l'après. La prière nous fait rentrer dans une dimension surnaturelle de notre existence. Elle la fonde. Elle la fonde tellement qu'après nous pouvons voir le réel d'une autre manière. Notre regard, notre oui, nous savons entendre et voir avec le surnaturel. Nous apprenons à voir et entendre Dieu partout quand nous l'avons fondé dans la prière. Sinon, au départ, nous sommes sourds et nous sommes aveugles. Et tous les signes du Christ dans Saint Jean à guérir les sourds et les aveugles, c'est cela. C'est nous faire vivre de la foi, de l'espérance, de la charité, du surnaturel. Voilà. Alors dans la prière, il peut arriver qu'il y a des guéli-guéli. Je sens dans mon cœur que ça brûle. Je sens quelque chose de Dieu, une motion, ça y est, c'est bien. Eh bien, c'est donné par Dieu. Réjouissons-nous. Ne pas le refuser, mais ne pas nous y arrêter. Quand il n'y a pas de guéli-guéli, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Dieu. Ça veut simplement dire que Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à ses cadeaux. Est-ce que tu m'aimes pour ce que je te donne ou est-ce que tu m'aimes pour moi? Et nous voyons là que nous touchons la vertu de charité. Le chrétien, donc, il exerce bien sa foi, son espérance et sa charité de manière éminente dans la prière. Ah oui, pourquoi? Parce que le Seigneur nous a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. » Mais ça s'exerce dans la prière. Je suis là pour Dieu en premier. Qu'il me donne quelque chose ou pas, je suis là pour Dieu. Je t'aime. Et à ce moment-là, nous allons vivre de vie surnaturelle de plus en plus. Voyez-vous, quand Jésus dit, un verset qui est très mal compris, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », on croit que c'est simplement de la pure imitation. J'aime souvent le répéter, mais le terme grec veut dire « de mon origine ». Aimez-vous les uns les autres de mon origine. C'est en gros « aimez-vous les uns les autres de mon amour ». La vertu de charité n'est pas naturelle. On la reçoit de Dieu, c'est théologal, c'est surnaturel. Avant, c'est simplement de la philanthropie. Et donc la philanthropie, ça s'épuise, ça s'use, ça se décourage, ça s'essouffle. Et nous voyons des gens très généreux qui vivent, au bout d'un moment, qui arrêtent. Parce qu'ils ne vivent pas de la charité divine. La charité divine, il faut la puiser dans la prière. « Seigneur, je t'aime en premier et donne-moi ton amour. » Et à ce moment-là, je vivrai avec ça. Et là, ça ne s'épuise pas. C'est un moteur sans fin. On a l'exemple parfait de gens qui sont tous dévoués à ces causes, en particulier les sœurs de Mère Thérésa. Et qui un jour, elles étaient épuisées, il y avait trop de travail. Voyez-vous, il y avait trop de pauvres à s'occuper. Alors elles ont dit, bah, écoutez ma sœur, à Mère Thérésa, il faut diminuer la prière, parce qu'il y a trop de pauvres. Et au regard humain, le bon sens voudrait effectivement qu'on diminue pour s'occuper plus. Et Mère Thérésa n'a pas dit ça. Elle a dit, vous vous lèverez une heure plus tôt, vous prierez plus. Et ça marchera. Et oui, ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prière nous rend féconds et que la charité divine, si nous la puisons, décuple nos forces. Voyez-vous, s'il y avait à choisir entre une heure de prière et une heure d'action, il faut choisir l'heure de prière. Parce que l'heure d'action sans la prière, c'est simplement notre action. Elle n'est pas féconde spirituellement. Voyez, c'est très important d'avoir conscience de ça. Le monde, dans son hyperactivisme, croit que le temps passé pour Dieu est rien. Or, il faut perdre du temps, aider Dieu pour Dieu, et Dieu va donner la vie divine, la charité divine qui va féconder toute chose. Ça, c'est important. Donc là, nous voyons notre vraie identité, notre vraie identité. Et nous voyons que la vie de prière ne va pas être dissociée de l'agir. Parce que c'est dans la vie de prière que nous allons trouver la source de l'agir. Et on va voir aussi que si nous voulons maintenir cette vie de prière, quand une fois, donc pour maintenir d'abord cette vie de prière, nous voyons qu'il faut un règlement. Thérèse d'Avila dit qu'au départ, pour commencer la vie spirituelle, il faut un règlement, c'est-à-dire quelle durée j'ai choisi pour prier, combien de temps, dans quel lieu, et est-ce que je vais m'y tenir? Voilà, marquez ça dans son agenda. Ne pas partir du rendez-vous avec le Seigneur sans en avoir replacé un autre. Et vous verrez que dans nos vies, la chose la plus facile qu'on peut enlever, c'est la prière. On a toujours une multitude de choses à faire pour ne pas prier. Et ça va vite, on justifie tout. Mais on ne se rend pas compte que nous nous vidons, que nous sommes comme un poisson sorti du bocal et nous n'avons plus d'eau. Notre âme a soif, nous n'avons plus rien à lui donner, nous ne sommes pas féconds. Et puis un jour, c'est l'épuisement, on dit à Dieu, tu m'as pas aidé. Et Dieu pourrait répondre, mais tu n'as pas bu. Donc il faut boire. Il faut toujours boire. Et au début de la vie spirituelle, il faut même boire plus que prévu. Parce qu'on a tendance à se vider facilement. Il faut boire plus. Il faut avoir des réserves. Donc voilà, cette vie de charité, il faut poser un temps de prière, un règlement, s'y tenir. Je vous invite à vous inscrire à l'adoration si vous n'y êtes pas. Mais aussi, vous pourrez méditer le Matthieu 6, qui dit, surtout c'est la prière, ton Père voit dans le secret, retire-toi dans ta chambre, etc. Comment, dans ma chambre, j'ai un oratoire, un lieu pour prier. Comment je mets en avant la parole de Dieu. Comment je l'écoute dans la foi. Comment je note dans un carnet la parole que Dieu m'a touchée, et je la rumine sans arrêt. Et nous allons voir, en fait, que celui qui veut maintenir un cap de prière, ça va avoir des effets sur sa propre vie. Parce qu'il va se rendre compte que toute la vie, s'il est dans la pure activité, ça perturbe sa prière. Il ne peut pas aller dans la prière en faisant simplement que le sas. Il faut au bout d'un moment qu'il se prépare avant même dans sa journée. Il faut que s'il veut maintenir un très haut contact dans l'oraison, il faut quelque part qu'il soit uni à Dieu dans le reste du temps. Il se rend compte que s'il vit mal dans sa journée, qu'il fait des péchés de toutes sortes, ça a des implications sur sa prière. En fait, si nous voulons maintenir le cadre de la prière, quelque part, il faut nous convertir dans le reste. Et on voit en fait que la prière, c'est l'élément qui tire tout le reste. Celui qui est fidèle à la prière, qui veut vraiment que la prière porte du fruit, d'avoir une union à Dieu et être irrigué de Dieu, en fait, ça n'a les conséquences secondes, c'est que ça lui implique à se convertir dans le reste. Et donc là, nous voyons que la prière saisit tout l'être humain. Tout l'être humain. D'ailleurs, c'est ce que dira Jésus. Marthe, Marthe, pourquoi tu t'agites? Pour peu de choses. Elle avait perdu l'union à Dieu dans ce qu'elle faisait. Et le Seigneur lui rappelle de garder cette union dans le service. Voyez. Donc c'est important, cette qualité d'union va amplifier la prière. Rappelons-nous toujours cette vérité que le Christ dit en Jean 15,4, « Demeurez en moi comme moi en vous ». Nous pouvons toujours être unis avec le Seigneur, parce que le Seigneur demeure en nous. depuis notre baptême. Thérèse d'Avila a fait cette expérience que Dieu est en elle-même. Et là-dessus, elle a fondé la mission. Elle a refondé l'ordre carmélitain sur l'horizon où nous prions avec Dieu en nous. Il y a plein de manières de prier. Toute manière est bonne. Il faut trouver sa manière. Alors on ne la trouve pas tout de suite. Il faut être fidèle. On ne change pas tous les matins comme un shopping. On est fidèle. Le chapelet peut aider. L'écoute de la parole de Dieu est prioritaire. Dans toutes les formes, le chapelet est toujours une écoute de la parole de Dieu. L'adoration sera toujours liée avec la parole de Dieu. La lectio divina, c'est la parole de Dieu. L'oraison, ça sera aussi d'écouter la parole de Dieu. Si nous recevons des choses du Seigneur, des émotions, très bien. Mais attention à l'imagination. Dieu n'est pas comme nous le pensons. La parole vérifie vraiment, en vérité, la qualité de notre rencontre. Et nous verrons les fruits de la prière dans Galates 5, qui sont les fruits de l'Esprit Saint. Nous ne mesurerons pas notre prière aux extases, aux guili-guili, mais aux capacités de grandir en bienveillance, en charité, en partage. À ce moment-là, on voit les effets. Il y a une unité qui se crée. Alors, nous parlons de la prière personnelle, parlons maintenant de la prière communautaire. Ce qui est important, avant de dire ça, on dit que Marthe Robin a dit cela. Marthe Robin, on lui a demandé s'il fallait préférer l'Eucharistie à l'oraison. Et elle a répondu, l'oraison. Ah oui, mais pourtant l'Église dit que l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est vrai. Mais on peut aller à l'Eucharistie en spectateur. On peut y aller en écoutant sans vraiment changer. Tandis que dans l'oraison, faire une demi-heure, une heure d'oraison tous les jours, il faut sacrément le vouloir. Parce qu'on est seul, au bout d'un moment, on s'ennuie. Donc ça demande de s'investir en actes de foi, d'espérance et charité. Et en cela, c'est transformant. Tandis qu'on peut aller à la messe sans être transformé, si on ne s'investit pas vraiment. Voyez la différence. Et en cela, Marthe Robin avait raison. Et cette prière personnelle, si nous la vivons à fond, va changer notre prière communautaire. On sera plus disponible à écouter les textes à la messe, à l'office. Nous serons mieux à même, comme disait Charles de Foucault, celui qui veut recevoir le corps du Christ, il faut d'abord qu'il l'ait adoré. Nous serons mieux à même de communier, etc. Donc il y a un lien là, profond. Et pareil, la prière communautaire va irriguer notre prière personnelle. Celui qui vit que de prière personnelle, au bout d'un moment, il est une île déserte, paumée, en plein Pacifique. Il faut toujours être attaché avec le mystère de l'Église. Sinon, à nouveau, on se fait son petit chez-soi, et des fois on atrophie le Jésus, et au bout d'un moment, on n'entend plus des paroles qui nous dérangeraient, mais que Jésus veut nous dire, parce qu'on l'a pensé comme on veut le penser. Vous voyez ? Donc la prière communautaire irrigue la prière personnelle, et inversement. Et Thérèse d'Avila avait conscience que les deux devaient être tenus. Prière personnelle et prière communautaire. C'est absolument nécessaire. Et dans les deux cas, qui est l'acteur de la prière personnelle et de la prière? C'est le Saint-Esprit. C'est le grand acteur de le Saint-Esprit. C'est le grand acteur de notre liturgie. Voilà. Alors c'est des petits éléments pour nous inviter à poser une prière. Je rajouterai enfin un dernier point. N'oublions pas dans notre prière l'intercession. Notre prière, appuyons-nous sur l'intercession. Ayons un temps d'intercession où nous portons le monde. Nous portons les intentions du Saint-Père, les intentions de la paroisse. C'est là où nous exerçons notre charité. Ça commence à porter nos frères dans la prière, voyez. Et puis des fois, les gens s'ennuient dans la prière. Ils disent, mais je sais pas quoi dire. Mais est-ce que tu as pensé à tes frères et à l'Église, aux besoins de l'Église? Thérèse d'Avila, qui fonde le Carmel, réforme le Carmel, dit, le monde est en feu, on va prier. Elle n'est pas là en train de se dire simplement, ben moi et Jésus, c'est nous deux quoi. Donc sa prière est sans fin parce qu'elle voit des besoins qui sont sans fin. Et donc celui qui devient apostolique dans sa prière avance beaucoup plus, continue à creuser sa prière. Voyez. Alors que le Seigneur nous aide à prier. Je finirai en entendant les apôtres dire au Seigneur, un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un des disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. Eh bien, Seigneur Jésus, donne-nous la grâce de grandir dans la prière, de découvrir qu'elle est une source pour toute notre vie, qu'elle est le lieu de notre grande identité, qu'elle est vraiment le chemin à l'union, à la Trinité. Amen.